ou les grands-parents. Chers frères et sœurs, nous sommes bien conscients, après quelques années quand même, que nous vivons un combat spirituel. C'est clair et net. On a tous envie d'aimer et d'être aimé, et on fait tous l'expérience qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile d'être aimé comme on voudrait être aimé. Donc il y a un combat spirituel que nous avons commencé depuis notre naissance en fait. Nos parents, nos éducateurs, nos catéchistes nous ont appris à entrer dans ce combat spirituel et puis nous avançons. Ça c'est le contexte général de notre existence. Nous essayons de faire du bien autour de nous, le maximum de bien. Pour que ce bien soit fait, Dieu fait sa part. Alors que fait Dieu ? Dieu donne sa grâce. Ça veut dire quoi ? Qu'il donne sa force à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, Dieu donne sa force, sa puissance d'aimer, sa puissance d'espérer et la puissance de sa foi. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a entendu dans la première lecture. Vous savez, Dieu donne par exemple le don de prophétie et pour ça il en met 70 à part. Alors ils avaient l'habitude d'aller dans une tente à l'extérieur du village. C'est dans cette tente à l'extérieur que les 70 reçoivent le don de prophétie. Voilà, sur la liste il y en avait 70, enfin 68. Parce qu'il y en a deux qui étaient restés au village. Pourquoi faire ? On n'en sait rien en fait. Peut-être que c'était pour donner un coup de main à droite. En tout le cas, ils n'étaient pas dans la tente. Alors du coup, ceux qui étaient dans la tente ont dit, mais eux, ils n'ont pas reçu la grâce, ils n'ont pas reçu le don de prophétie, ils n'ont pas le droit de prophétiser. Mais qu'est-ce que t'es, toi, pour me dire à moi, Dieu, sur qui je dois faire reposer ma grâce ? On est dans un combat spirituel, Dieu donne à qui il veut, et parfois, il faut bien le reconnaître, nous avons nous-mêmes une fâcheuse tendance à empêcher le bon Dieu de donner sa grâce à qui il veut. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait exactement comme du temps de Moïse, je viens d'en parler, Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va dénoncer des gens qui ne font pas partie de notre groupe et qui pourtant reçoivent les grâces de Dieu. Voilà. On n'est pas les premiers à faire ça. Enfin, à l'époque de Moïse, ils ne sont pas les seuls à faire ça. David aussi avait fait ça avec Saül. Quand David tuait 100 000 personnes et que Saül ne tuait que 10 000 personnes. C'est dans le texte ça, hein. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé, je ne suis absolument pas misogyne, mais ce sont les femmes qui ont commencé, qui ont dit « Ouh là là, David, il est meilleur que Saül, parce qu'il tue plus de monde. Vive David !» Qu'est-ce qu'il a fait, Saül ? Il s'est mis à courir derrière David pour essayer de le tuer. Et vous voyez, du coup, au lieu d'être heureux d'avoir David qui fait des miracles, enfin qui fait ce que Dieu lui demande de faire, tuer les ennemis, vous voyez, c'est aussi une image symbolique qu'il faut avoir dans notre cœur. Ne vous arrêtez pas sur le fait de tuer. Mais simplement, David faisait ce que lui demandait le Seigneur. Il combattait les Philistins. Il était dans son combat spirituel. Sauf que David était plus efficace que Saül. Du coup, Saül a été jaloux de David. Et du coup, qu'est-ce qui a fini par gagner, à votre avis ? Les Philistins. Et dans notre existence, à nous, c'est exactement pareil. Au lieu d'entrer dans un combat spirituel, de faire du bien là où nous sommes, et de permettre que ce bien se répande partout, on a une fâcheuse tendance à se comparer les uns les autres, à être jaloux les uns les autres, à avoir des domaines réservés et à être jaloux de nos domaines réservés, ou alors on a une fameuse tendance à utiliser une sorte d'échelle où on va dire « moi je suis en haut de l'échelle, toi qui es en bas de l'échelle, tu n'as pas le droit de prendre les initiatives que tu prends. Tu n'as pas le droit d'avoir les idées que tu as. C'est ça que le Seigneur dénonce. Quand le Seigneur dit dans l'Évangile, si ton œil te condamne, si ton œil t'entraîne au péché, supprime-le. Parce que le Seigneur veut simplement dire, c'est tu ne peux pas tout faire avec ce que tu es. Ce que tu es, c'est très puissant, c'est très fort. Ton pouvoir de parler, ton pouvoir de penser, ton pouvoir d'argumenter, c'est un pouvoir qui est très très puissant. Mais tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu ne peux pas en faire ce dont tu as envie, au risque de blesser et de déséquilibrer l'œuvre de Dieu, au risque d'empêcher l'œuvre de Dieu de se répandre. Prenons par exemple la question de la jalousie. Ça, c'est facile. Facilement, on peut être jaloux du don que quelqu'un d'autre a. Et du coup, au moment où cette personne va exercer son don, ben on va le critiquer. Et la critique commence toujours par « oui, mais… » et « vlan ». Et on casse derrière. « Oui, l'Église sent bon, elle est propre, mais… » Ils ont de la chance, ils ont des bonnes sœurs. Etc, etc, etc. Faites-le vous-même. Je ne vais pas multiplier les exemples. L'économie d'échelle, c'est facile. Enfin, le système de l'échelle, c'est facile. Vous êtes dans une situation depuis 10 ans. Prenez quelque chose que vous faites dans votre travail. Depuis 10 ans, tout d'un coup, il y a un jeune qui arrive. Il y a un jeune cadre qui arrive et qui a des idées fantastiques. Alors lui, il n'est pas habitué au système qui est en route. Mais du coup, il est libre d'avoir les idées qui… Et puis, il a plein d'idées, et des idées qui marchent très très bien. Et à ce moment-là, le N plus X dit la fameuse phrase, mais il y en a d'autres. Et dit donc, coucou, on a toujours fait comme ça, alors c'est pas toi qui va nous apprendre à faire les choses. On a toujours fait comme ça. Ou alors, on pointe une rubrique, voyez. Ou alors on pointe une façon de faire extrêmement précise pour montrer que le jeune qui débarque, il a peut-être des bonnes idées, mais il ne fait pas tout comme il faudrait faire. Un petit exemple qui me vient à l'instant, là, comme ça. Vous avez vu que parmi les prêtres, il y en a qui ont des soutanes et il y en a qui n'ont pas de soutanes. C'est incroyable comme on peut être catalogué à partir de la façon dont on est habillé. Alors lui, c'est un bon prêtre, il a une soutane. Lui, c'est un mauvais prêtre, il n'a pas de soutane. Ouais, mais enfin, il dit la messe, il te confesse, il t'évangélise, il t'apporte le bon Dieu, etc., etc., etc. Une autre, toujours dans ce système d'échelle, quand je viens dîner chez vous, je suis toujours très heureux de venir dîner chez vous, et c'est toujours un très bon moment, c'est vraiment vrai. Mais il y a une question que vous posez qui m'étonne toujours. Mon père, qu'est-ce que vous pensez de l'évêque ? Comment te dire ? Comment voulez-vous que je réponde à une question pareille ? Vous voulez savoir de quel côté mon cœur balance, mais est-ce que ça ne va pas empêcher, ma réponse ne va pas empêcher la grâce du Seigneur de passer par cet évêque ? Imaginez que je dise, ouais, c'est pas mon jus, il est plutôt de gauche. Je caricature à mort. Hein. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire, vous ? Qu'est-ce que vous allez… Comment vous allez réagir ? Vous allez vous placer par rapport à moi ou par rapport à ce que je dis ? Et pour vous, ça va être beaucoup plus difficile de recevoir la grâce de notre évêque, de l'évêque. Et c'est pareil avec le pape. Ouais, le pape, il fait le tour de la France, il ne vient pas en France. Bah ouais, mais en fait, il fait ce qu'il veut, le pape. Et ainsi de suite, vous voyez. On est capable, dans nos attitudes, de se comporter comme des riches. Ou finalement, on va capitaliser la grâce. On va privatiser, pardon, la grâce. On va prendre la grâce pour nous. Comme si on était les seuls détenteurs de ce qui fait du bien. Troisième chose, après l'échelle, c'est les domaines réservés. Alors ça, c'est un truc terrible, les domaines réservés. On a tous, on vit tous avec des charismes et des grâces qui ont été reconnus et on a l'habitude de faire certaines choses. Et il y en a l'habitude qu'on l'habite. Il y en a qui ont l'habitude de venir dire l'évangile, de dire la lecture. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de s'occuper de la quête. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de nettoyer l'église. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de ranger les lumignons. Il y en a d'autres qui ont l'habitude d'aller chercher le pain et puis de le donner aux pauvres. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de s'occuper des champs. Il y en a d'autres qui ont l'habitude... Et tout d'un coup arrive quelqu'un qui a un charisme, qui a un don incroyable, je prends au hasard un truc facile, de chant. Et qui voudrait chanter. Et qui voudrait même participer à l'équipe liturgique du chant. Et en disant ça, je vise personne, c'est juste un exemple. Mais non, il ne va pas venir dans l'équipe des chants, il vient juste de débarquer. Puis il n'y connaît rien, il ne sait pas comment on fonctionne. Il vient juste de débarquer, il est tout jeune. C'est le début de l'année. On ne va pas quand même risquer de le mettre dans notre équipe. Vous voyez comment on fait? On a des domaines réservés, on se garde les domaines réservés, et du coup, la grâce ne peut pas entrer. Et la communauté ne peut pas recevoir toute la grâce et toute la nouveauté que l'Esprit-Saint voudrait lui donner. C'est ça, se comporter comme un riche. Vous voyez? C'est garder pour soi les dons que le Seigneur nous fait, en oubliant complètement qu'à côté, il y a des gens merveilleux qui pourraient venir augmenter notre grâce, déployer notre façon de faire, notre façon de comprendre, notre façon d'aimer, notre façon de louer, vous voyez. Alors, demandons au Seigneur, si vous voulez bien, la grâce de se réjouir profondément, parce qu'il me semble que dans ces trois difficultés que le Seigneur nous demande d'écarter de nos vies, ces trois difficultés sont résolvables par une bonne chose, c'est la louange. Celui qui entre dans la louange ne peut pas regretter que quelqu'un de nouveau vienne nous aider à grandir dans l'amour. Quelqu'un qui est sans cesse en train de remercier le Seigneur ne peut pas regretter qu'un groupe de Brésiliens vienne mettre une nouvelle ambiance dans la messe et du coup la rallonge. Ben oui, parce que c'est ça, au fond. Et ainsi de suite. Le Seigneur nous demande de la souplesse, vous voyez. Une communauté qui va bien, c'est une communauté qui est souple. C'est une communauté qui vit sous la motion de l'Esprit-Saint. Demandons au Seigneur cela, d'entrer dans la louange profonde de ce qu'il fait pour nous, comme il le veut. Acceptons que l'Esprit-Saint soit profondément agissant dans chacun de nos cœurs. Amen.